Nous continuons ce deuxième segment de l'émission Parole à propos, et notre sujet, c'est Galiléo Galilei. Ça vous dit quelque chose? Peut-être pas, mais probablement que son nom francisé va vous dire quelque chose. Galilée, le célèbre astronome italien qui est né à Padoue en 1564, maltraité par le tribunal de la terrible Inquisition catholique pour avoir, dit-on, osé affirmer que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Alors, il demeure aujourd'hui encore dans notre culture populaire la figure de proue de la rationalité scientifique face à l'obscurantisme religieux. Certains croient que la controverse de Galilée portait sur la rotondité de la Terre. J'ai entendu ça il n'y a pas si longtemps à la radio, que Galilée affirmait que la Terre est ronde, l'Église disait non, la Terre est plate. C'était pas du tout ça le débat. Ceux qui affirment de telles choses sont tout simplement mal informés. Le débat, c'était le géocentrisme versus l'héliocentrisme. Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Alors, ce qu'on affirme, et de manière sérieuse, c'est que Galilée aurait prouvé l'héliocentrisme alors que l'Église croyait au géocentrisme. Et on lui aurait fait donc un procès, il aurait été persécuté, dit-on, parce que ses thèses défiaient la doctrine d'Église. Mais si cette histoire officielle était fausse ou pas tout à fait juste, si Galilée n'avait jamais été emprisonné ou torturé par ses détracteurs, si Galilée n'était jamais parvenu à prouver la thèse de l'héliocentrisme comme on le croit, ben, Galilée ne serait pas aujourd'hui un martyr de la science, mais plutôt une icône tronquée et utilisée à mauvais escient. Et c'est ce que croit mon invité. Bonjour Clément.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, si je comprends bien avec le sujet et les notes que tu m'as envoyées, ça va être une chronique un peu iconoclaste. Et l'icône dont qu'on va briser, c'est celle de Saint Galilée qui a été canonisée par les rationalistes anticléricaux. Et je pense que c'est quand même pas mal d'actualité. Encore aujourd'hui, on voit l'Église catholique qui, dans les années passées, fait un peu son mea culpa à tout le monde et entre autres a voulu montrer qu'elle se réconciliait avec les grands hommes de science du passé, qu'elle n'était pas obscurantiste et puis ainsi de suite. Mais certains n'acceptent pas finalement cette accusation. C'est le cas entre autres du pape Benoît XVI. Il y a eu une controverse en janvier 2008. Il était invité pour la célébration inaugurée par une cérémonie l'université à Rome, la Sapienza. Mais il y a eu des détracteurs, des gens qui sont opposés à cause de sa position sur l'affaire Galilée. Et il aurait prononcé un discours en 1990 où il s'appuyait sur l'interprétation du philosophe des sciences Paul Feyerabend. Qui juge que la position de l'Église d'alors, de l'époque de Galilée, était plus rationnelle que celle de Galilée. Est-ce que, à ta connaissance, Clément, donc, il y a d'autres sources que celles de ce philosophe des sciences ou d'autres autorités dans le monde académique qui remettent en question la version officielle de l'histoire de Galilée?
Oui, certainement. Entre autres, l'historien des sciences Aimé Richard, qui est un lauréat de l'Académie française, a publié en 2010 un ouvrage très, très intéressant qui s'intitule « La vérité sur l'affaire Galilée » de 335 pages environ. Cet ouvrage-là est fait exclusivement à partir des sources d'époque, c'est-à-dire les minutes des procès de Galilée et les correspondances écrites entre les différents intervenants de cette controverse.
Alors, donc, c'est des sources primaires, ce qui est très important.
Oui.
Parce que souvent, quand on interprète des interprètes, et ainsi de suite, on s'éloigne des faits. Alors, je présume que ça doit être assez solide comme document. Alors maintenant, il nous reste une douzaine de minutes. Si tu peux résumer pour nous un petit peu, c'est quoi cette thèse qui remet en question la position traditionnelle ou l'opinion populaire qu'on a de Galilée et de la controverse l'entourant?
Oui, bon, cette nouvelle thèse historiographique, je pourrais la diviser en trois points. D'abord, c'est que Galilée, il y avait raison avec l'héliocentrisme, c'est-à-dire l'idée, l'affirmation que la Terre et les planètes tournent autour du Soleil, mais il n'a jamais réussi à le prouver de son vivant. Point très important.
Parce que l'idée populaire, c'est qu'il l'aurait démontré, ça.
Exactement, mais il ne l'a pas fait. Ça nous amène au deuxième point. C'est qu'à l'époque, c'est-à-dire dans le premier tiers du 17e siècle, la cosmologie, qui était la plus scientifique selon les données accessibles à l'époque, en était une proposée par l'astronome qui s'appelle Tycho Brahe. Il lui proposait que, en fin de compte, les autres planètes, pas la Terre, mais les autres planètes, tournent autour du Soleil et que l'ensemble du Soleil et des autres planètes tournent autour de la Terre.
Il était comme à mi-chemin entre le géocentrisme et l'héliocentrisme.
Oui. C'est ça, le géocentrisme étant une opinion qui date de l'Antiquité, qui s'est d'ailleurs imposée en Antiquité grecque, selon lequel le centre de l'univers, c'est la Terre, et puis que c'est le Soleil et les autres astres qui orbitent autour de la Terre.
C'est un point important à souligner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est le christianisme qui a affirmé le géocentrisme, alors que finalement, c'était dans les connaissances scientifiques générales de l'Occident.
Oui, c'est ça. C'est surtout les astronomes grecs, d'abord Eudoxe de Cnide, Aristote et Ptolémée, qui ont popularisé cette cosmologie-là géocentriste. Et le troisième point, c'est que à l'époque de Galilée, d'ailleurs même au Moyen Âge, l'Église romaine n'était pas dogmatique sur cette question-là. Elle était prête à réviser sa position si des nouvelles observations scientifiques l'amenaient à le faire.
Ce qui m'apparaît un des points les plus importants donc de cette nouvelle thèse-là, parce que ce que l'approche populaire laisse croire, c'est vraiment que l'Église était inflexible et qu'elle était vraiment obscurantiste. Mais là, certains vont dire, alors si c'était pas le cas, pourquoi est-ce que l'Église a fait un procès à Galilée?
C'est que l'Église romaine insistait que tout ce débat-là, à vrai dire, ces recherches-là, se fassent sur un mode, en fin de compte, scientifique. Parce que quand on a une attitude scientifique, tant qu'on n'a pas de preuves irréfutables pour notre hypothèse scientifique, on n'affirme rien de façon absolue. Donc, l'Église n'interdisait aucunement aux astronomes de s'intéresser aux questions, aux planètes, de faire des mesures, de publier des ouvrages. Mais elle exigeait que ce soit fait que l'héliocentrisme ne soit pas proclamé comme absolu tant qu'on n'avait pas de preuves irréfutables le supportant.
Mais est-ce que Galilée avait des preuves irréfutables? Est-ce qu'il est l'homme de science qui a démontré l'héliocentrisme? Tu nous as dit comme premier point que c'était pas le cas. Mais est-ce qu'il était un homme de science intègre et est-ce que ses travaux avaient une valeur quelconque?
Bon, écoute, on pourrait en discuter beaucoup. Galilée s'est gouré sur un certain nombre de questions, mais la contribution principale de Galilée à la révolution astronomique, c'est une découverte qu'il a faite vers 1609 à peu près, ce qu'on appelle les phases de Vénus. Dans le fond, Vénus, la planète Vénus, Galilée a observé que Vénus passe en arrière du Soleil, ce qui implique que Vénus tourne autour du Soleil. Et selon les calculs qu'on faisait, les mesures qu'on faisait à l'époque, on comprenait que les autres planètes, pas la Terre, mais les autres planètes, avaient une orbite comparable à celle de Vénus. Or ça, cette découverte-là de Galilée, si ça venait réfuter le géocentrisme d'Aristote, ça venait soutenir, et c'était tout à fait compatible avec la cosmologie intermédiaire de l'astronome Tycho Brahe.
Et est-ce que c'est pour cette raison-là qu'on lui a fait un procès? Est-ce que c'est parce que ça défiait? C'était quoi l'objet du procès, finalement?
Non. Galilée n'a pas eu de problème là-dessus. C'est que, bon, Galilée s'est enflé la tête. Et puis, à partir de ce moment-là, lui était vraiment un ardent partisan de l'héliocentrisme. Et là, bon, s'est mis à publier des brochures, des ouvrages. Finalement, le principal ouvrage de Galilée sur la question a été publié autour de 1631. Et puis, cet ouvrage-là s'est fait avec l'accord du pape, Galilée avait même l'imprimatur du Vatican pour ça. Et puis, l'accord était en fin de compte ce que j'ai dit plus tôt. Très bien, Galilée, tu as le droit de faire un travail scientifique, de discuter de la question, d'alimenter le débat, mais n'affirme rien de façon absolue tant que tu n'as pas de preuves et essaye de pas trop te mêler de théologie.
Alors, c'était vraiment scientifique comme approche. Ça respectait les termes mêmes sur lesquels tout débat scientifique doit être fait.
Exactement. Or, Galilée, qui était un homme fort intelligent, mais assez orgueilleux et très imbu de lui-même, n'a absolument pas respecté les termes de l'accord. Et dans son ouvrage, il a fait exactement le contraire. Son ouvrage était composé comme une discussion entre différents personnages fictifs. Et donc, un de ces personnages-là fictifs était visiblement Galilée. C'est le personnage intelligent qui a toujours toutes les bonnes réponses, qui incarne la raison puis la rationalité. Puis un autre personnage qui était l'abruti, le stupide, qui d'ailleurs son pseudonyme ou son nom fictif était Simplicio. Tout le monde, quand ça a été publié, a compris que ce personnage-là, c'était le pape. Alors Galilée s'est vraiment mis les pieds dans les plats. Et puis, il a vraiment cherché le trouble, en fin de compte.
C'est intéressant de constater que, finalement, le mythe entourant Galilée comme héros de la science et l'Église comme obscurantiste a commencé avec Galilée qui, dans son ouvrage, a voulu laisser cette impression-là. Et que ça a été récupéré finalement un peu par ses successeurs à qui ça faisait l'affaire finalement de montrer l'Église sous ce jour-là. Est-ce que vraiment l'attitude de l'Église dans tout le procès, le débat, a été celui de lui faire un procès inéquitable?
Non, pas du tout. D'ailleurs, l'Église n'était pas monolithique sur la question. Il y avait un certain nombre de sympathisants de l'héliocentrisme dans l'Église. Mais comme j'ai dit, l'Église ne pouvait pas affirmer l'héliocentrisme sans en avoir la preuve. Galilée, vraiment, honnêtement, oui, bon, il a été jugé deux fois par le tribunal de l'Inquisition. C'est son deuxième procès en 1632-33 qui a fait le plus de bruit. Mais il faut dire que Galilée a été vraiment traité comme un invité, quasiment comme un invité de marque pendant son procès.
Oui, il était pas dans les cachots, là.
Non, il n'était pas du tout dans les cachots. Il a jamais été torturé. Et on peut dire qu'il n'a jamais vraiment été emprisonné. Parce que pendant son procès, Galilée a passé plusieurs mois, par exemple, au palais de l'ambassade de Toscane à Rome. Il a même passé un mois au palais du Saint-Office, c'est-à-dire à l'intérieur du palais de l'Inquisition, dans un des meilleurs logements qu'il y avait dans le palais de l'Inquisition. Donc, c'est vraiment... Galilée s'est vraiment fait gâter. Pour l'époque, il a été extrêmement bien traité. Et par la suite, Galilée, comme conséquence, comme punition, il a été condamné, disons, à l'emprisonnement en résidence, entre guillemets. C'est-à-dire Galilée a été terminé sa vie confortable dans sa villa à Florence. Et puis, où ce que d'ailleurs, on a des lettres de l'époque de Galilée, se commandaient des cargaisons de 100 bouteilles de vin. Et puis, il vivait quand même une belle vie.
Alors, si on conclut, c'est que Galilée, pas aussi scientifique qu'on le laisse croire, et l'Église catholique était pas du tout obscurantiste, comme on le laisse entendre également.
Exactement. On peut le dire autant du côté catholique que protestant, hein, parce que au départ, Luther était aussi opposé à l'héliocentrisme, mais quand l'héliocentrisme a eu plus d'accréditation scientifique, aussi bien les catholiques que les protestants l'ont accepté.
C'est très intéressant. Merci beaucoup, Clément, de corriger ces fausses compréhensions, ces idées reçues qu'on a souvent, qui sont véhiculées. Alors, la leçon qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas croire tout ce qu'on entend sur les radios populaires. J'entends bien sûr ce qui est dit à CFOFM. Vous pouvez tout croire, ça. Tout est bon. Ben, je te remercie, Clément, pour ta participation. On s'excuse pour, par moment, la piètre qualité là, de l'enregistrement. On perdait le signal. Là. Vous comprenez qu'on utilise Skype pour communiquer ensemble. Et puis, c'est pour ça, des fois, la communication est un peu moins bonne. Mais en tout cas, merci d'avoir écouté cette émission et puis on vous dit à bientôt.